grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mauni
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Grand Dialogue du Studio Tamani. Aujourd'hui, 11 novembre 2014, nous nous intéressons à la justice transitionnelle pour mieux la décrypter. La justice transitionnelle, utilité et limite, c'est l'intitulé de cette émission. Une émission qui va essayer de faire toute la lumière sur la justice transitionnelle, sa définition, son application au Mali et son rôle dans la réconciliation. Nous avons fait appel à Maître Brahima Kone de la FDH qui répondra donc au téléphone, Saloum Traoré, directeur exécutif d'Amnesty International, et Maître Yaro Khalifa, qui est avocat. Moi, je suis Sira Bachili pour l'animation et la mise en onde est assurée par Noum Djiré.
Studio Tamani.
Alors, bonsoir à vous, chers invités. La semaine dernière, s'est tenu un atelier sur la justice transitionnelle. Il s'agissait de recenser toutes les exactions, tous les viols, toutes les dérives par rapport aux droits humains qui se sont déroulées de 1960 à nos jours, que ce soit du côté de l'État et des groupes armés, et voir comment la justice va traiter de ces questions. Alors, à nos yeux, nous, profanes en la matière, on se pose cette question. Maître Yaro Khalifa, je vais commencer par vous. C'est quoi la justice transitionnelle?
Merci, Madame Sira Bachili. L'année 2012 a été pour le Mali et pour tous ses fils une époque malheureuse à cause des mouvements de rébellion au nord, à cause du renversement du pouvoir politique et de l'opposition ou la confrontation entre nos forces militaires et de sécurité. Ces événements, hélas regrettables, tout à fait inattendus, ont fait de nombreuses victimes, ont occasionné des préjudices inestimables en raison de la caractéristique des violations massives des droits de l'homme qu'ils ont revêtues. Il y a eu des recours à la violence, il y a eu notamment des assassinats, il y a eu des tortures, il y a eu des viols, il y a eu des séquestrations, des disparitions forcées. Donc il s'agit là d'événements exceptionnels marqués par des violations graves et massives des droits de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes en phase de sortir de ces phases de violations parce que nous ne sommes pas dans ces violations, mais nous ne sommes pas encore dans la paix consolidée. Nous sommes dans une phase qui doit être accompagnée pour que effectivement il y ait la normalité par la protection des droits de l'homme. Donc, dans cette phase, les fils du pays ont besoin d'être réconciliés. Car en tout état de cause, les acteurs de ces violations et les victimes de ces violations doivent continuer à vivre dans leur communauté respective. Or, il n'y a pas de réconciliation véritable après une crise de ce genre, sans pardon. Il n'y a pas non plus de pardon véritable sans justice. Donc, pour se réconcilier, pour coudre le tissu social qui est brisé par les violations, généralement, les pays ont recours aux institutions et mécanismes de justice transitionnelle. Donc, ce qui revient à dire que la justice transitionnelle est une justice de circonstances. Circonstances marquées par des violations graves et massives des droits de l'homme, circonstances marquées par des déchirures sociales, du tissu social, et circonstances marquées un peu par l'écroulement d'un système judiciaire et sécurité qui se trouve en désordre. Donc, le recours à la justice transitionnelle a pour principale vocation de lutter contre l'impunité par rapport aux violences qui ont été commises, de chercher les moyens de refonder le tissu social par la réconciliation des cœurs et des esprits, de pourvoir à la réparation des torts qui ont été causés aux victimes, de promouvoir surtout des garanties sérieuses pour que les violations qui ont été commises dans un passé récent ou lointain ne se répète pas, et de pourvoir au droit de savoir, au droit de vérité par rapport aux violations qui ont été commises pour que effectivement les victimes trouvent la paix.
D'accord.
Donc, de cette vocation simple, la mise en place des institutions, des outils et des catégories de la justice transitionnelle a eu pour effet aussi d'accompagner le processus de consolidation de l'état de droit et de la paix.
D'accord. On va faire réagir les autres invités. Maître Brie Makouni est au bout du fil. Maître, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quels sont les acteurs qui interviennent dans cette justice transitionnelle dont nous parlons?
Je pense que tout le monde intervient dans cette justice transitionnelle, comme l'a si bien défini mon excellent confrère Maître Yaro. Vous avez vu que la définition est tellement large et en un mot, c'est une justice qui comprend beaucoup de mécanismes aussi bien judiciaires que extrajudiciaires et qui ont été mis en place par une société soit en conflit ou sortant d'un conflit pour établir la vérité des faits d'abord, donc des enquêtes. Ensuite, traduire les auteurs des graves violations des droits de l'homme devant la justice, réparer le préjudice subi par les victimes et faire en sorte que les faits graves qui ont été commis ne se répètent plus dans l'avenir. Donc, il y a beaucoup d'éléments, des acteurs de la justice traditionnelle que nous connaissons, la justice classique, mais il y a les commissions vérité et réconciliation qui sont des mécanismes extrajudiciaires. Mais au-delà, il y a des réformes qui doivent être entreprises, notamment au niveau du secteur de la sécurité, au niveau de la fonction publique et dans beaucoup d'autres domaines. Donc pour vous dire que tous les acteurs, tous les éléments de la société peuvent être concernés par la justice transitionnelle. Mais l'essentiel est de pouvoir aboutir à la réconciliation et de faire en sorte que la paix soit restaurée de façon durable.
Alors, Saloum Traoré d'Amnesty International, on dit très souvent que la justice transitionnelle constitue un baromètre de défense des droits humains. En quoi elle est un baromètre de défense des droits humains, vous qui êtes d'Amnesty International?
Merci, Sayou. Je pense que quand on dit que c'est un baromètre... c'est vraiment exact, parce que comme mes excellents frères, les avocats, ont eu tout de suite à vous parler un peu de la définition, aussi les acteurs qui interviennent, etc., vous voyez que c'est carrément tout un chantier. Donc, quand il y a justice transitionnelle, il y a tout là-dedans. Parce qu'il y va d'abord de l'information, il faut que tout le monde soit réellement informé. Donc les victimes, les parents des victimes, tous les gens qui sont là-dedans vont avoir la vraie information. Et il y a la vérité qui est dite. Et ensuite, il y a la réparation, etc., etc. Vous voyez que donc, ça ramène les droits. C'est-à-dire que les victimes sont dédommagées, les victimes sont d'ailleurs au centre. Dans la justice transitionnelle, c'est surtout les victimes qui sont au centre. C'est-à-dire on ne se contente pas seulement de faire la justice entre les gens, mais on fait en sorte que les victimes puissent réellement retrouver toute la réparation possible. Et ensuite, on fait en sorte qu'il n'y ait pas encore des victimes de ce genre.
On va revenir à cette question de réparation ultérieurement. Ouais. Alors, Maître Yaro Khalifa, quelle différence y a-t-il entre la justice transitionnelle et la justice classique que tout le monde connaît?
La principale différence, c'est que, comme je l'avais dit tantôt, la justice transitionnelle est une justice de circonstances. Donc, ce n'est pas une justice qui va se pérenniser dans le temps. C'est une justice qui est là seulement pour régler.
Circonstanciel,
qui est là pour régler les legs des violations des droits de l'homme. Donc, qui n'a pas vocation à se substituer à la justice classique, qui est un attribut de la souveraineté de l'État, qui est permanente. Donc, c'est là la principale dimension. donc qui connaît effectivement les infractions, qui connaît les infractions au terme de la loi au quotidien. Alors que la justice transitionnelle ne connaît que des infractions résultant de l'exceptionnel. Donc, ce n'est pas une justice qui vient se substituer à la justice classique, mais c'est une justice qui vient compléter les mécanismes de justice classique que nous avons en apportant des mécanismes peut-être internationaux ou des mécanismes alternatifs ou des mécanismes ad hoc, en tout cas pour aller vers la consécration et la promotion des droits de l'homme, pour sortir effectivement les pays de l'aigle des violations graves et massives des droits de l'homme. Donc, faisons attention pour ne pas faire un amalgame. La justice transitionnelle ne vient pas substituer une justice classique.
Elle vient la compléter.
Elle vient la compléter, la consolider, et ensemble, elle concourt vers la consolidation de la paix et la réconciliation. Voilà, en quelques mots, ce que je pouvais dire.
D'accord. Alors, Maître Brahima Kony, la justice transitionnelle, sur quoi est-ce qu'elle fonctionne?
La justice transitionnelle fonctionne sur un certain nombre d'éléments. D'abord, la justice classique en fait partie, parce que si vous voyez les recours qui sont faits devant certaines juridictions internationales, vous comprendrez qu'il y a une subsidiarité ou une complémentarité entre les juridictions nationales et les juridictions internationales. Surtout, c'est des crimes internationaux et pour la plupart ratifiés, enfin, qui sont contenus dans des instruments ratifiés par le Mali. Donc, nos juridictions internationales sont compétentes pour en connaître. Mais le problème, c'est que nos mécanismes ne sont pas tellement appropriés pour connaître de ces infractions. Donc, ça demande un renforcement des capacités et techniques et même législatives de notre dispositif présent. Donc, c'est d'abord la justice classique, mais de façon renforcée pour faire face à ces violations qui sont vraiment massives. Donc, si on va laisser la justice classique dans son chemin normal, elle ne pourra jamais traiter ces questions. Ensuite, comme je l'ai dit, il y a les mécanismes extrajudiciaires comme les commissions Vérité, Justice et Réconciliation, bon, qui sont créées un peu partout. Mais une commission doit d'abord faire appel à toutes les composantes de la société. Et si on veut que ce soit une commission digne de ce nom, elle doit être indépendante et puis pouvoir aborder la plupart des questions essentielles pour pouvoir trouver des réponses aux attentes des populations, notamment des victimes. Et comme je l'ai dit également, il faut réformer le secteur de la sécurité. Quand vous voyez le contexte malien aujourd'hui, tout le pays est en insécurité. Il est même difficile de se déplacer, surtout dans les régions du Nord. Et ça, c'est une entrave au développement économique. Donc, il faudrait nécessairement faire en sorte que la sécurité soit quand même restaurée. Bon, l'aspect réparation est quand même un aspect assez déterminant, parce que c'est l'une des principales attentes des victimes et un élément assez important en matière de protection des droits de l'homme.
On va y revenir dans un autre volet.
Il faut le faire. Et puis, au niveau de la fonction publique, il faudrait procéder à ce qu'on appelle le vetting, le filtrage de la fonction publique, faire en sorte que les éléments qui sont à la base de certains comportements alors ne soient pas maintenus au même niveau pour éviter que les mêmes éléments reprennent encore les mêmes faits.
D'accord.
Donc ça, c'est plusieurs mesures et d'autres, même la mémoire, reconstituer la mémoire en souvenir des victimes, Mais ça dépend en tout cas des attentes des populations selon le contexte dans lequel on se trouve.
D'accord, maître, on va observer quelques secondes de pause et puis nous revenons après.
Merci.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Et oui, vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook et le compte Twitter de Studio Tamani. Le débat du jour porte sur la justice transitionnelle. Les experts nous aident à la comprendre. Ces experts sont Monsieur Saloum Traoré, qui est directeur exécutif d'Amnesty International, Maître Yaro Khalifa, qui est avocat, et Maître Brima Kone de la FDH. Deuxième volet de ce grand dialogue, les limites de la justice transitionnelle. Mais avant, moi, je voudrais poser une question à Maître Yaro. Maître Yaro, alors, est-ce que la justice transitionnelle réprime? Elle a pour vocation de réprimer?
Oui, on vous avait dit tantôt... Mm-hmm. Que, en fait, dans sa mise en œuvre, la justice transitionnelle repose sur des piliers. Le premier pilier de la justice transitionnelle est la lutte contre l'impunité. Cette lutte contre l'impunité, elle se fait à travers des poursuites pénales. Ces poursuites pénales peuvent être menées au niveau national par nos juridictions classiques, tout comme elles peuvent être menées par d'autres mécanismes alternatifs, qui sont pensées, qui sont nos réalités. Vous avez vu au Rwanda, des poursuites ont été menées par les Gachacha. Tout comme on peut créer des juridictions ad hoc, c'est-à-dire dans le cadre du Conseil de sécurité, vous avez vu au Tribunal pénal international pour le Rwanda et le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Tout comme au niveau de l'État, on peut mener des poursuites parce qu'il s'agit de crimes imprescriptibles sur la base de la compétence universelle. La compétence universelle est en réalité un principe, c'est même un privilège, qui est reconnu à un État de poursuivre dans le cadre de ses frontières l'auteur d'une infraction au titre de violation des droits de l'homme, même si cette violation n'a pas été commise sur son territoire national. C'est-à-dire l'objectif de tout ça, c'est pour ne pas donner un abri aux violateurs des droits de l'homme. Partout où vous êtes, vous n'avez pas de répit parce qu'on peut vous poursuivre sur la base de la compétence universelle. Donc il y a les poursuites pénales qui constituent un credo de la lutte contre l'impunité. Il y a aussi la réconciliation. La réconciliation, c'est les commissions dites de vérité qui œuvrent pour permettre aux victimes de savoir pourquoi il y a eu des exactions, qui sont les auteurs, faut-il les punir, faut-il les pardonner, faut-il faire, etc., etc. Mm-hmm. Donc, pour voir à leur droit de vérité. Ouais. Ça, c'est vraiment le deuxième pilier. Et le troisième pilier, la réparation. Ces réparations, elles peuvent se faire de trois manières. Soit on restitue le cadre de vie qui a été détérioré ou les biens qui a été enlevé. Soit on reconnaît le tort qu'on a créé. Soit que ça peut être des réparations symboliques ou ça peut être des réparations collectives comme l'érection de monuments pour reconnaître la mémoire de tel ou tel qui avait été victime de choses. Il y a un autre pilier qui est la garantie de non-répétition des violations. C'est de ça que parlait mon excellent confrère, Maître Brema Kone. Ça se fait à travers des procédures de vérification et filtrage de la fonction publique. Ça se fait à travers des réformes de notre système de sécurité. Et ça se fait à travers des opérations qu'on appelle DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion des anciens combattants. Il vous a donné la définition du vetting, qui fait appel à un examen minutieux du passé d'un individu pour voir s'il porte sur ses épaules la lourde responsabilité des violations commises et prendre en conséquence des mesures pour l'extirper des sphères de décision, etc., et pour empêcher la répétition et des violations.
D'accord.
Donc, ce sont les piliers, les poursuites pénales sont envisagées dans le cadre des mécanismes de justice transitionnelle.
D'accord. Je me tourne vers M. Salim Traoré d'Amnesty International. Est-ce que la justice transitionnelle exprime l'impuissance de la justice classique?
Oh non, pas du tout. Je pense que comme mes collègues viennent de le dire tout à l'heure, c'est une justice complémentaire. Et d'ailleurs, c'est une justice qui inclut même la justice traditionnelle. Donc, il n'y a pas d'antinomie, ça complète et ça permet simplement de s'intéresser encore beaucoup plus aux victimes. Ça permet aussi de solutionner des problèmes de violation massive. Parce qu'ils l'ont déjà dit, si la justice traditionnelle doit pouvoir résoudre ces problèmes avec sa lenteur, avec tout ce que ça contient comme... les processus et les procédés, ça va prendre beaucoup d'années pour pouvoir finir avec les cas. Alors qu'avec la justice transitionnelle, il y a beaucoup de mécanismes qui font que on pourra très rapidement juger ou bien en tout cas trouver des solutions alternatives pour que rapidement on puisse en finir et qu'on revienne à la réconciliation.
Maître Brahima Kone, la justice classique n'est-elle pas capable dans certaines circonstances? C'est pourquoi on a recours souvent à la justice transitionnelle?
Oui, comme je l'ai dit, après un conflit, la dimension des violations est telle que ça peut dépasser les possibilités de la justice classique. C'est pour cela que cette justice classique a besoin d'être renforcée. Et compte tenu également de la nature de certains crimes, comme les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, qui sont des crimes internationaux, il est bon que le système de la justice classique s'en approprie. Et cela demande, comme je l'ai dit, le renforcement des capacités des acteurs de la justice, mais également... des mécanismes de protection des victimes. Ça, c'est un aspect très important parce que dans le contexte du Mali, il y a eu des crimes sexuels, notamment les viols. Bon, aujourd'hui, les victimes des viols ont quand même besoin d'une certaine protection pour éviter qu'elles ne fassent l'objet des auteurs des crimes. C'est pour cela qu'on doit prendre des mesures de protection des victimes, même pendant la procédure. C'est pour vous dire que la justice classique n'est pas antinomique avec la justice transitionnelle, mais les deux sont complémentaires.
D'accord. Maître Yaro Khalifa, la justice transitionnelle demande l'adhésion de tous. Il faut que la société soit d'avis. Vous l'avez rappelé dans votre propos tout à l'heure. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut dire que la justice transitionnelle peut s'appliquer au Mali?
La justice transitionnelle peut s'appliquer partout. Il s'agit d'une volonté qu'il faut marquer face à des violations graves et massives des droits de l'homme. La justice transitionnelle n'est pour autant pas une solution clé à main. Donc, des solutions coup par coup qui consistent à mettre certains piliers de la justice transitionnelle en œuvre et de négliger certains autres piliers ne doivent pas être envisagés. Tous les piliers doivent être synchronisés et on essaye de mettre le tout ensemble. Mais maintenant, les sociétés sortant de conflits sont plutôt marquées par leur fragilité. Il faut tenir compte à ce lieu des rapports de force. Parce que si vous voulez coûte que coûte poursuivre les auteurs de violations qui maîtrisent encore la force, qui ont des capacités de nuisance, il va sans dire que vous allez compromettre tout le processus. Donc il faut savoir le cadre temporel dans lequel on va mettre les piliers en mouvement. Et c'est très important. Donc pour que en fait, la justice transitionnelle soit une opération réussie, il faut l'adhésion de tous. On a vu des pays qui sont passés outre. Et les résultats ont été ce que nous savons. Par contre, d'autres pays qui ont lancé des consultations, qui ont cherché à savoir un peu les sentiments de tout le monde, qui n'ont pas négligé les victimes, qui ont fait de larges consultations nationales, ont eu alors une justice transitionnelle qui a fait un succès historique. Donc, il est important dans la démarche pour mettre en place une justice transitionnelle de ne pas hâter les événements, de mettre la victime au cœur du processus d'implantation de la justice transitionnelle, de mettre tout le peuple qui a la soif de savoir, la soif de la vérité, la soif de la justice à contribution en lançant des consultations, qu'elles soient élargies ou restreintes, pour recueillir effectivement les sentiments des gens. C'est en cela seulement que, effectivement, ça, la justice transitionnelle peut produire des prouesses pour aller vers la consolidation de la paix et la réconciliation du peuple.
D'accord. Monsieur Salim Traoré d'Amnesty International, vous pensez que la justice transitionnelle est applicable au Mali?
Bien sûr, elle est applicable au Mali. Elle est applicable au Mali. D'abord, je dois remercier tous les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour déjà essayer de former la société civile à la justice transitionnelle. Nous avons eu déjà beaucoup d'ateliers et beaucoup de connaissances sur cette justice-là. Et nous sommes maintenant capables de savoir que cette justice-là est très bien praticable au Mali, surtout que le Mali en a besoin. Le Mali est un pays qui est en train de sortir de crise. Cette justice-là est très bien praticable au Mali, surtout si on voit que les génocidaires, disons les personnes qui ont été auteurs de crimes graves ont été libérés, ils sont en train d'être libérés. Et donc nous savons que dans le cadre de la justice transitionnelle, c'est des gens qu'on peut toujours rattraper. Donc c'est dire que la justice transitionnelle est nécessaire réellement pour le Mali. D'abord, c'est des crimes qui ont été commis, qui sont des crimes de guerre, des enfants soldats, des viols, etc. C'est des crimes qui ne sont pas du tout prescriptibles, qui sont imprescriptibles. Donc, même après des centaines d'années, on peut toujours revenir à ces criminels-là. Ce sont aussi, dans la justice traditionnelle, il y a aussi le fait que, contrairement à la justice traditionnelle, il n'y a pas de... On peut toujours rejuger la personne. Vous savez que dans la justice traditionnelle, une fois que quelqu'un a été jugé pour une faute commise, eh bien, on ne peut plus rejuger la même personne pour la même chose, ce qui n'est pas en réalité dans le cadre de la justice traditionnelle. On peut toujours revenir encore à la personne pour pouvoir réellement amener toute la vérité et pour faire en sorte que les victimes puissent être satisfaites.
D'accord. Maître Brahima Kone, pourquoi la justice transitionnelle doit être appliquée au Mali?
Elle doit être appliquée au Mali parce que la crise que le Mali a connue a été émaillée de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Il y a eu beaucoup de cas d'exécution sommaire, des viols, des amputations de mains, enrôlement d'enfants soldats, la destruction de monuments et la destruction de biens publics, j'en passe. Des éléments constitutifs des crimes internationaux. Mais vous avez vu que la situation qu'a connue le Mali a déstabilisé pratiquement tout le pays. Il y a eu énormément de victimes. Et c'est pour cela, lorsqu'il y a beaucoup de victimes, et lorsque les crimes sont d'une certaine gravité, je pense qu'il faut faire recours à la justice transitionnelle. Et dans ce cas, il faudrait voir comment pardonner les infractions qui peuvent l'être. Et ça, c'est vraiment quelques petites infractions où les victimes peuvent accepter le pardon. Si les victimes acceptent le pardon, il n'y aura pas de jugement pour ces cas. Par contre, les crimes les plus graves que je viens d'énumérer ne peuvent en aucune manière faire l'objet de pardon, même si les victimes estiment qu'elles peuvent pardonner. Mais c'est des crimes qui peuvent toujours faire l'objet de poursuites parce qu'ils sont imprescriptibles. D'accord. Donc le Mali a besoin de ça parce que la finalité de cette justice transitionnelle, c'est d'aboutir à la réconciliation nationale et d'aboutir également à une paix de façon durable. Or, le Mali actuellement a besoin, les fils du Mali ont besoin d'être réconciliés avec eux-mêmes et nous avons vraiment besoin de la paix.
D'accord. Sur ce, nous partons en pause pour quelques secondes.
Une réaction?
Un avis?
Un commentaire?
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Vous écoutez donc Studio Tamani via nos radios partenaires à travers tout le Mali. Si vous souhaitez réécouter ce débat, vous pouvez visiter notre site www.studiotamani.org. Nous parlons aujourd'hui de la justice transitionnelle, sa signification, ses limites et ses liens avec la réconciliation. Nos invités sont M. Saloum Traoré, directeur exécutif d'Amnesty International, Maître Yaro Khalifa, avocat, et Maître Brima Kouné de la FIDH. À présent, justice et réconciliation, mais avant, j'ai une autre question pour Maître Yaro Khalifa. On parle de la prise en compte de toutes les exactions commises de 1960 à nos jours. Cela est-elle possible? C'est une hypothèse envisageable?
Oui, c'est une hypothèse envisageable si l'on veut régler de façon précise et définitive toutes les exactions des droits de l'homme. Mais cela procède d'une volonté commune, exactement. Parce que vouloir descendre jusqu'aux années 1960, il y a eu effectivement des exactions, il y a eu des disparitions, il y a eu des bagnes célèbres que nous avons connues. Des gens ont été torturés, ils sont morts. Et les victimes, les ayants droit de ces victimes-là, attendent de l'État la vérité, attendent encore les droits de savoir pour faire leur deuil, attendent de savoir les sépultures, est-ce que effectivement leurs victimes ont été dignement enterrées, où sont-elles enterrées? Bon, donc c'est important à mon avis. Si l'on veut régler la question de façon sémantique et de façon radicale, de descendre jusqu'aux années 1960. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, il faut beaucoup faire attention avec les mécanismes de justice transitionnelle, en tenant compte effectivement des nécessités qui se posent à nous, en tenant compte effectivement des rapports de force qui s'imposent à nous. Voilà. Donc...
D'accord. Alors, on fait très souvent le lien entre la justice transitionnelle et la réconciliation. Cette justice est même vue comme un instrument de réconciliation. À propos, Human Rights vient de publier un rapport sur le document de synthèse des pourparlers d'Alger. Dans ce rapport, l'organisation signale l'oubli de l'aspect justice. Elle craint que le processus de paix ne soit remis en cause. Maître Brima Kouné, justice et réconciliation peuvent-elles aller ensemble?
Oui, les deux peuvent aller ensemble. Moi, j'aime bien le dire chaque fois. Je dis que face aux exigences de paix et de réconciliation, il ne faudrait pas oublier le besoin de justice des victimes. Les deux peuvent aller ensemble, car la justice transitionnelle doit être vue comme étant une composante de la réconciliation. C'est ce qui fait qu'elle peut varier d'un pays à un autre selon le contexte. Mais l'objectif, c'est d'aller vers la réconciliation. Et cet aspect est assez important parce que, au-delà même de pourparlers d'Alger, il y a eu l'accord de Ouagadougou. Bon, ça, c'est par là que ça a commencé. Nous avons compris qu'on était déjà en train d'oublier les victimes. Et nous avons même tiré la sonnette d'alarme en son temps. Si jamais on oublie cet aspect de la justice dans la réconciliation, ça veut dire que les mêmes infractions peuvent se répéter. Et c'est les victimes qui risquent de devenir des auteurs de tout crime pour l'avenir, parce que ça va engendrer l'injustice et la vengeance. Donc c'est très important que la réconciliation prenne en compte la justice.
D'accord. Mais, Monsieur Saloum Traoré, on ne peut pas parler de justice sans réconciliation et inversement. Comment faire en sorte, dans le cas du Mali, que les belligérants se rapprochent?
Bon, d'abord, il faudrait rappeler tout simplement que ces belligérants ont été des frères pendant des milliers d'années et il faudrait faire en sorte que les gens puissent se remémorer que notre société avait toujours été soudée et qu'il faut forcément ressouder la société. Et dans ce processus, il faudrait effectivement faire en sorte que les victimes puissent bénéficier de justice et que tout le monde comprenne qu'on ne peut pas favoriser vraiment l'impunité, faire en sorte que ceux qui ont eu à commettre les crimes puissent revenir ici et se repentir et demander pardon pour ceux qui peuvent le faire et pour aussi qu'on puisse pardonner ce qu'on peut pardonner et faire en sorte que les gens, que tout le monde veuille réellement aller à la réconciliation. Je pense que rien n'est impossible. Bon, je ne sais pas moi, mais c'est généralement les politiciens aiment à dire que le Mali est un pays où on trouve toujours la solution.
D'accord.
Et je pense que, de tout mon cœur, je voudrais que très rapidement on puisse avoir la solution à ces problèmes.
Alors, Maître Yaro Khalifa, Human Rights a publié un rapport sur le document de synthèse des pourparlers. Elle signale donc l'organisation que l'oubli de l'aspect judiciaire ne porte préjudice au processus de paix. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, en fait, je crois que c'est une préoccupation légitime, parce que il ne faudrait pas se leurrer du tout. Il ne peut pas y avoir de réconciliation sans pardon, mais il ne doit pas y avoir de pardon sans justice. Avant de pardonner, je voudrais que justice soit faite, qu'on me donne ma vérité, qu'on consacre mon droit de savoir ce qui est arrivé à mon proche. C'est indispensable. Donc, la justice, le droit à la justice est un maillon, est un pilier fort de la justice transitionnelle. Toutefois, dans la dévolution des piliers, je dis effectivement, les sociétés sortant de conflits sont des sociétés fragiles. Il y a des enjeux lié à la transition politique qui est le cadre d'émergence de la justice transitionnelle, qui est sujette à la temporalité, à l'exception. Il y a d'autres enjeux qui font qu'il faut tenir compte des rapports de force. Si on ne tient pas compte des rapports de force, le processus peut être biaisé. Donc, savoir quand est-ce qu'il faut faire la lutte contre l'impunité à travers des poursuites, savoir quand est-ce qu'il faut promouvoir les questions de droit à la vérité et de droit au savoir. Donc, à mon avis, effectivement, on ne peut pas, aussi longtemps qu'on veut trouver une solution durable au legs des violations, exclure les droits à la justice des victimes.
Mais à force de mettre l'accent sur la réconciliation, est-ce qu'on n'a pas tendance à oublier un peu les victimes? Quelle est la place qui leur est réservée dans la justice transitionnelle?
Dans la justice transitionnelle, la victime est au cœur du processus. Et il s'agit d'exactions graves et massives. Donc les victimes sont nombreuses, elles sont au cœur du processus. C'est vrai, quand on voit tout ce qui arrive, on peut envisager la question de la reconnaissance de la victime et la question de la réparation des victimes comme étant un des défis, un des défis qui sous-évalue la validité de la justice transitionnelle. Ça peut être expliqué comme étant une des limites, un des obstacles, une des ambiguïtés qui un peu vient gangréner. Voilà ce processus qui est pourtant apte à créer la réconciliation. Maintenant, dans cette réconciliation, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes ne peut pas avoir la même satisfaction. En tout état de cause, il faut mettre la victime au cœur du processus.
Mais dans ce cas, on ne sacrifie pas une victime au profit de la réconciliation?
Non, c'est-à-dire que, en réalité, vous savez, comme je vous dis, on aura l'occasion peut-être de parler des limites de la justice transitionnelle. Mmh. Il y a beaucoup d'aspects qui font que certains droits sont sacrifiés. Mmh. Ça, c'est très clair. Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, les questions d'amnistie, les questions de pardon et d'oubli sont de nature à porter, voilà, préjudice à certaines victimes. Mmh. Voilà. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont été sacrifiés, hein, sous l'autel de la réconciliation.
Monsieur Saloum Traoré veut réagir.
Voilà, je voudrais justement ajouter que dans la justice traditionnelle, on fait tout pour que les victimes soient vraiment dédommagées, pour que les victimes ne soient pas oubliées. Mmh. Et donc, il y a toujours cette dichotomie. On veut la réconciliation, en même temps, on veut la justice. Et il y a des gens qui ont tendance à croire que quand on fait la justice, alors cela est un obstacle à la réconciliation, ce qui n'est vraiment pas, c'est pas le cas. Vous savez, nous, au Mali, ici, vous rappelez, le 11 septembre, nous avons fait une très grande marche. Et dans cette marche-là, on était en train de scander des slogans pour dire que, bon, écoutez, justice, etc., la réconciliation, il faut qu'on tienne compte. Mais lorsqu'on est arrivé au ministère de la Justice, le ministre nous a dit, bon, écoutez, nous ne faisons pas de l'impunité, parce que notre marche était une marche contre l'impunité. Ils disent que le gouvernement du Mali ne fait pas de l'impunité, mais les gens que vous avez vus qu'on a libérés, c'est pour faire une condition favorable aux négociations, etc. Mais ne croyez pas qu'ils ne peuvent pas être jugés. Donc même si on les libère, selon ce qu'il nous a dit, la justice peut toujours les rattraper, étant donné que la justice traditionnelle peut rattraper les gens même dans leurs vieux jours.
D'accord. Voilà. Maître Brahima Kone, quelles sont les réparations possibles dans la justice transitionnelle pour le cas spécifique du Mali?
Pour le cas spécifique du Mali, je pense d'abord qu'il y a des réparations financières. Les victimes qui ont subi des préjudices matériels, les préjudices doivent être réparés. Les victimes qui ont subi des préjudices subis et physiques du moins doivent entrer en voie de réparation. Mais au-delà, il faudrait aussi rendre dignité à ces victimes-là, parce que ce n'est pas l'argent qui règle tout le problème, mais il faudrait quand même que les victimes se sentent prises en considération. Mm-hmm. Et en fait, au-delà même de ces réparations, il faudrait faire en sorte que des programmes à long terme puissent être établis pour permettre à ces victimes-là d'être de vrais acteurs économiques au niveau de la société.
D'accord.
Donc, il y a des réparations collectives aussi, comme on l'a dit, parce qu'il y a des monuments qui ont été détruits. Il faudrait quand même que ces monuments soient reconstruits. Mm-hmm. Et donc, il y a plusieurs formes de réparation. Bon, et comme je l'ai dit, ça dépend vraiment des besoins de la société.
Peut-être Yaro Khalifa va nous en citer aussi avant qu'on ne se quitte. On va terminer sur ça. Les réparations possibles dans le cas spécifique du Mali?
Bon, il y a, outre les réparations financières, il y a des réparations matérielles. Mm-hmm. Souvent, des gens, il y a certaines victimes qui n'ont rien perdu sur le plan matériel, mais par contre qui ont été spoliés de leurs avantages sur le plan professionnel. Mmh. Il faut rétablir le cadre de vie économique, le cadre de vie professionnelle. Ouais. Donc, au-delà, ça peut être des réparations symboliques, ça peut être des réparations beaucoup plus collectives, comme ériger des monuments à la gloire de ceux qui ont résisté face aux violations et pour permettre de conserver la mémoire historique des événements effectivement qui sont passés.
Merci maître. C'est ce qu'on pouvait dire sur la justice transitionnelle. Nous espérons donner satisfaction à vos préoccupations. Ceux qui nous ont aidés à le faire sont maître Brahima Kone de la FDIDH, monsieur Saloum Traoré, directeur exécutif d'Amnesty International, et maître Yaro Khalifa, avocat. Vous aviez Siraba Chile au micro, Ousmane Diadé Touré à la réalisation et Noum Diré à la technique. Merci de nous avoir suivis. dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.